France Culture.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
La crise climatique ne menace pas que notre présent et notre futur, elle fait aussi courir de graves risques de disparition aux vestiges des cultures passées. C'est le cas pour le patrimoine matériel des Yupits qui habitent la moitié sud de la côte ouest de l'Alaska. Sur ce territoire frappé par la fonte du pergélisol et par l'érosion du littoral, une archéologie de l'urgence est à l'œuvre pour préserver un patrimoine menacé et sauver les vestiges du temps long dans un contre-la-montre forcé. En quelques années de fouilles sur le site que nous allons explorer aujourd'hui, ce sont plus de 100 000 objets qui ont été découverts par les archéologues. Des objets qui témoignent d'une culture matérielle sans écriture en partie disparue en raison de la colonisation, mais que les populations locales cherchent aujourd'hui à se réapproprier. Ce site fouillé par notre invité, c'est le site de Nunalek qui nous raconte la vie quotidienne du peuple Yupik, mais aussi ses rites et les guerres qui ont bouleversé son histoire. Claire Oumar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, professeur junior rattaché à l'université Marie et Louis Pasteur et vous êtes responsable de la mission de fouilles Yupik qui s'est déroulée de 2022 à 2025 sur le site de Nunalek. Nunalek, ouais, comme ça ce sera plus confortable. Une mission donc en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et vous avez récemment co-signé avec Charlotte Fauve aux éditions du Seuil le livre « Alaska, l'usure du monde ». Merci beaucoup de venir nous parler aujourd'hui de vos travaux sur ce site qui est le seul permettant de documenter la période pré-contact, comme on le dit, entre les Yupits et les populations occidentales. Alors pour débuter notre entretien archéologique, Claire Oumar, j'aimerais planter un décor, celui de l'environnement de travail dans lequel vous évoluez quand vous allez en Alaska, sur le site de Nunalek, qui veut dire littéralement le vieux village en langue Yupik, et qui se situe non loin du village de Quinahock, yes. Bon, pas mal, presque bon. Alors dans quel paysage bien particulier vous travaillez quand vous allez là-bas?
Oui, tout à fait. C'est contrairement à l'image qu'on a souvent de l'Alaska, qui est montagneuse et pleine de forêts et autres, à Quinahock et dans ce delta du Yukon-Kuskokwim, tout est plat, marécageux. Et quand on arrive par avion, finalement, on voit quasiment que du vert et du bleu, des méandres et des lacs qui se succèdent les uns aux autres. Donc évidemment, paysage d'été et en hiver, tout est à peu près recouvert de neige, même s'il y en a de moins en moins.
On est en région arctique, qu'est-ce que ça signifie cette latitude pour la conservation des vestiges? Alors il n'y a pas que la latitude et la température, mais aussi les sols. Les vestiges sont conservés d'une façon très particulière dans ce genre de région.
Oui, tout est gelé en dessous de 25 cm globalement. Quand les hivers sont frais et les printemps frais, on est même gelé un peu au-dessus. Et quand il fait un peu plus chaud, on est plutôt sur des sols gelés à partir de 30-40 cm. Mais globalement, on est dans une archéologie où les vestiges sont quasiment dans l'état dans lequel ils ont été laissés, finalement.
Ça fait qu'on va retrouver des vestiges qu'on ne retrouve quasiment nulle part ailleurs, du bois, du cuir, voire même des cheveux.
Cheveux, de la vannerie. Mm-hmm. Il y a beaucoup de travail de vannerie qui est aussi effectué par ces populations-là et qu'on retrouve sur le site.
Donc tous ces déchets organiques finalement qui ne sont pas attaqués par des bactéries, par des champignons qui pour le coup sont moins présents dans ces sols, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors après, ils sont quand même assez abîmés sur les premiers centimètres, mm-hmm, parce qu'ils subissent ces effets de gel-dégel. Mm-hmm. Mais plus on va dans les niveaux profonds et mieux ils sont préservés.
Alors, je parlais dans l'introduction de cette émission des Yupits, le peuple Yupik. Les Yupits, c'est au pluriel, les Yupik, c'est au singulier. Qui sont les Yupits?
C'est un peuple essentiellement chasseur-pêcheur, collecteur aussi de baies pendant l'été, qui a développé une technologie tout à fait adaptée à ces climats froids, avec un cycle saisonnier aussi dans la subsistance. L'hiver, ils vont plutôt le passer à chasser le phoque sur la banquise. De temps en temps, ils ont accès à d'autres espèces comme le morse ou les cétacés, mais pas trop dans ce delta-là parce que les niveaux sont pas assez profonds pour permettre aux cétacés de se déplacer. Au printemps, ils vont essentiellement se tourner vers les espèces migratrices et notamment les espèces d'oiseaux qui vont leur servir de transition, de nourriture de transition avant l'arrivée des saumons qui est vraiment la nourriture symbolique, emblématique et à la base de leur subsistance encore aujourd'hui. Mmh. Et après, quand l'été est passé, que les saumons ont frayé et sont repartis, ils vont se tourner vers la chasse aux caribous.
Je disais tout à l'heure que le peuple Yupik n'avait pas d'écriture avant le contact avec les Occidentaux. Alors, quel moyen on a d'accéder à ce passé pré-contact, comme on dit ?
Alors, ce qui est vraiment impressionnant dans ces populations-là, même encore actuellement, c'est l'héritage de la tradition orale. Et cette tradition orale, on la ressent même chez les plus jeunes qui sont encore capables de nous raconter des histoires, alors que finalement, nous, on est mieux placés pour les écouter que pour les raconter. On ne sait plus trop bien les raconter.
Mmh. Est-ce que vous pourriez nous donner, pour qu'on ait une idée donc, de la temporalité dans laquelle on va s'inscrire aujourd'hui, le moment justement de ce contact avec les Occidentaux, il intervient quand pour les Yupit ?
Ça dépend des endroits, mais pour ce site précis de Quinoc, disons du village de Quinoc et le site de Nunalek, a priori, on n'est que dans des occupations pré-contact, parce qu'on n'a pas de traces d'objets d'échanges commerciaux avec les Européens ou les Occidentaux, plus généralement, d'abord avec les Russes, et puis à partir du moment où l'Alaska est vendue aux Américains en 1868, avec les Anglo-Américains. Ces objets de commerce, la plupart du temps, c'est des pipes, des perles, des denrées alimentaires, des textiles, et ça, on n'en retrouve pas du tout à Nunalek. On retrouve un peu de métal, donc ça signe quand même des échanges à longue distance, probablement avec l'Extrême-Orient asiatique pour se procurer ce métal, avec évidemment plein d'intermédiaires, mais pas de contact direct avec ces arrivants étrangers, finalement.
On en vient à ce site de Nunalek, où vous travaillez régulièrement, où vous avez conduit plusieurs campagnes de fouilles. Quelle est la temporalité de son occupation et quels sont finalement les siècles auxquels il a été habité par les Yupit ?
On va dire qu'il a été abandonné à la fin du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, probablement 1675. Avec au moins trois phases d'occupation distinctes, qu'on aurait tendance à placer autour d'une temporalité de 200 ans, et potentiellement des occupations plus anciennes, mais qu'on n'a pas vraiment pu matériellement bien observer, qui remonteraient peut-être jusqu'au XIIIe, XVe siècle.
Alors cette région du monde, elle n'est pas comme la Rome antique, elle n'est pas balisée et connue comme leur poche par tous les archéologues. En 2007, les premiers archéologues sont arrivés à Nunalek. À quelles demandes répondaient-ils des populations locales ?
C'est en fait, pour le coup, le village et en particulier Warren Jones qui a contacté Rick Knecht, qui est l'archéologue historique qui a monté ce projet, qui ensuite a pris de l'ampleur et est devenu international. Et son inquiétude, c'était que tous ces vestiges disparaissent avec l'érosion côtière et qu'il ne reste plus de traces de ce patrimoine pour ses petits-enfants et les générations futures. Et il a mis 2 ans avant d'arriver à convaincre le conseil des aînés pour qu'une fouille de sauvetage puisse avoir lieu, ce qui était le cas en 2009 et 2010, avant que des financements plus importants interviennent et permettent une fouille plus programmée de plus grande ampleur.
2 ans pour convaincre le Conseil des aînés. Quel débat, justement, suscitait la présence des archéologues pour les populations Yupit ?
Dans toutes ces régions-là, on est vraiment dans une archéologie vivante, finalement, et on fouille des sites des ancêtres de ces habitants de Quinoak. Et d'après les aînés, il faut laisser ces ancêtres tranquilles. Et même en fouillant sur le site, il faut continuer à respecter ses ancêtres. Leurs âmes sont encore présentes et il ne faut pas les brusquer. Les fouilleurs, les bénévoles locaux du village de Quinoak qui venaient avec nous pour nous aider étaient sensibles à ces questions-là. Et l'année 2024, où il y avait tout un groupe de nouveaux fouilleurs américains qui n'avaient jamais trop mis les pieds à Quinoak, certains d'entre eux avaient commencé à mettre la musique sur le site et Rick les a arrêtés tout de suite en leur disant non, ici c'est pas possible.
C'est pas un espace de divertissement.
Exactement.
Et c'est pas qu'un espace de travail non plus. Et ça c'est important de souligner cet aspect, cette inclusion finalement des traditions et des populations locales dans ce travail archéologique du présent, comme vous le disiez Claire Oumar. En 2009-2010, donc, la première campagne de fouilles a été conduite sur place. Qu'est-ce qui a été trouvé en premier? Quels ont été les premiers vestiges mis au jour?
Alors, il y a eu d'autres vestiges trouvés avant, parce que justement, comme le site était déjà largement entamé par les tempêtes, on retrouvait des vestiges sur la plage, et notamment des masques et des belles pièces. Et ce qu'on a retrouvé de plus intéressant en faisant une fouille un petit peu plus extensive, c'est justement l'organisation de ces maisons. Donc des maisons en tourbe avec des murs de tourbe reliés par des chemins de planches. Et a priori, des maisons qui étaient occupées à peu près à l'année.
Des maisons qui étaient occupées à l'année, dans des climats qui varient quand même assez fortement, avec des hivers très froids, des étés plus chauds. Quelle structure, quelle architecture ont du coup ces habitations-là?
Alors souvent, pour l'hiver, il y a une sorte de sas qui permet de rentrer dans les maisons en sous-sol, justement pour avoir une température progressivement plus chaude à l'intérieur et pour ne pas trop subir les effets du froid. Alors que l'été, on va plutôt chercher justement à s'exposer un petit peu au vent, pour chasser tous les insectes nuisibles de type mouches et moustiques qui nous embêtent et qui les ont sûrement embêtés aussi à l'époque.
Oui, sans doute pas mal. Oui, on oublie que ces endroits qui peuvent sembler très très beaux sont soumis à la présence de nuées, de moustiques. Ce qu'il faut dire, Claire Oumar aussi, c'est que le site qui a été fouillé pendant cette campagne de 2009-2010, aujourd'hui, n'existe plus. Il a été détruit par la mer.
Voilà, c'était à peu près 30 à 40 mètres carrés qui ont été fouillés en urgence et qui n'existent plus.
Depuis, quelles autres campagnes de fouilles successives se sont succédées, si je me répète?
Le plus important des travaux archéologiques a eu lieu entre 2013 et 2018, parce que justement, Rick Knecht a été embauché à l'université d'Aberdeen et a obtenu un gros financement de la part de la HRC qui leur a permis de venir avec des moyens conséquents, de pouvoir aussi aider le village et de s'atteler à la fouille. Et là, à peu près 400 mètres carrés ont été fouillés en 5 ans. Et ensuite, c'est les années Covid qui ont largement freiné le projet ainsi que la fin de ces subventions.
Entre 2013 et 2018, puis les campagnes que vous avez conduites, entre 2022 et 2025, ce sont plus de 100 000 objets qui ont été retrouvés sur ce site, sur le seul site de Nunalek, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est colossal.
400 ou 500 mètres carrés.
Ce qui est colossal, cette présence d'objets. Comment on explique cette omniprésence d'objets? À nouveau, c'est parce qu'il y a des conditions de conservation qui sont parfaites?
Oui, et puis de manière générale, les sociétés arctiques, c'est un peu aussi des sociétés gadgets. C'est-à-dire qu'en général, un objet va avoir une fonction. Il peut avoir été réutilisé ou de manière opportuniste utilisé pour quelque chose d'autre. Mais globalement, chaque objet a sa fonction, avec des fonctions multiples qui, nous, parfois, nous échappent complètement. Et c'est justement aussi au contact de ces aînés dans les villages qu'on a parfois des réponses à nos questions sur des objets qui nous paraissent complètement énigmatiques.
Sur ces, donc on va pas décrire un à un chacun de ces plus de 100 000 objets, mais quelle grande famille d'objets on retrouve à Nunalek en Alaska?
Je pense que ceux qui marquent le plus et que tout le monde a envie de trouver quand ils arrivent à Nunalek, c'est les masques, évidemment, qui ont à la fois cette qualité esthétique et puis cette portée symbolique qui est importante, avec aussi beaucoup de ce qu'on appelle des mask attachment, parce que les masques avaient une partie centrale qui était positionnée sur le visage du danseur, souvent dans des pratiques chamaniques, mais aussi tout un lot de petits symboles qui pouvaient être des kayaks miniatures, des parties anatomiques de certains animaux, ou des plumes, ou des choses qui étaient représentées souvent sous forme de cercle, qui étaient aussi associées à ces masques. Des petites figurines humaines, souvent trouvées sous forme de bâtonnets, des bols, des visières, des fragments d'embarcations, de kayaks, des couteaux, pour les femmes, pour les hommes, des pointes de flèches évidemment, puisqu'on est en plein dans une période de conflit armé les guerres des arcs et de la flèche. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tous les objets de production d'objets, qui notamment tournaient vers cet artisanat de la vannerie, qui ne demande pas tant d'objets que ça, ou du bois.
Du bois flotté. Voilà, le bois flotté, puisqu'on le disait, l'Alaska, dans cet endroit-là, c'est de la toundra, il n'y a pas d'arbres, c'est des paysages très rares. D'où vient ce bois flotté, alors ?
Ce bois flotté, il est apporté sur les plages, c'est un petit peu comme si c'était un don de la nature, par les courants marins. Et ce sont des troncs entiers qui vont suivre les grands fleuves, en l'occurrence le Yukon et le Kuskokwim, pour ceux qui alimentent le plus les plages autour du delta. Donc des troncs qui tombent, des arbres entiers au départ, mais des troncs qui tombent dans les fleuves au moment de la débâcle, donc au moment de la fonte des glaces, au printemps, et qui viennent ensuite s'échouer sur les plages alaskiennes.
J'aimerais qu'on revienne, Claire Oumar, sur ces masques, parce que on les trouve bien sûr dans des fonctions rituelles. Alors c'est des masques qui ont d'un côté, un peu comme les masques de théâtre grec finalement, soit des sourires, soit des grimaces, à l'envers et au revers
pour certains d'entre eux. Ça c'est plutôt les petits bâtonnets, les petites figurines.
D'accord.
Les masques en tant que tels, c'est plutôt des masques qui étaient portés, donc avec une partie convexe, une partie concave, et des masques qui souvent sont mi-humains, mi-animaux.
Mmh. Et parfois on retrouve ces masques aussi dans des trous de poteaux. Donc que signifie cette présence-là de masques à des endroits où finalement ils n'étaient pas utilisés vraiment ?
Oui, a priori, les masques ne servaient pas forcément plus d'une fois, ça dépendait des rituels. Et ces masques étaient aussi utilisés à des fins de protection des maisons. Et parfois, ils étaient cassés en deux intentionnellement et positionnés à différents endroits de la maison pour en protéger les occupants.
On a parlé de la période d'occupation de ce site de Nunavak, 100 000 objets, j'imagine qu'on ne les fabrique pas quand même en une semaine. Alors on a parlé de 3 siècles globalement d'occupation. Qu'est-ce qui met fin et quelles traces archéologiques on a de la fin et de l'abandon de ce site de Nunavak en Alaska par les Yupites ?
Pour la phase la plus récente, cette fin d'occupation, elle est très facile à voir dans la tourbe, tout simplement parce que c'est une couche de tourbe rubéfiée et de cendres qui correspond à l'incendie des habitations. Cet incendie, il correspond justement à l'avènement de ces guerres de l'arc et de la flèche qui ont poussé les occupants à sortir des maisons pour se faire attaquer par les ennemis. Et les survivants se sont ensuite déplacés et ont abandonné le site.
Est-ce qu'on a des vestiges humains, des fossiles humains ou bien pas ?
On en a très peu, et la plupart du temps, c'est vraiment ce que nous, on redoute un petit peu de trouver, parce que c'est toujours des sujets sensibles avec ces communautés. On n'a jamais retrouvé de sépultures, la plupart du temps, c'est des restes isolés, des restes qui ne sont pas brûlés. L'objectif, c'était pas d'incinérer ni d'incendier les populations, c'était de les faire sortir, de les enfumer finalement, et de les faire sortir pour pouvoir les tuer. Et donc ces restes humains, quand on les trouve, on en prend soin, on les met au frigo le temps de la campagne et ensuite il y a des cérémonies pour les réenterrer qui sont menées par les gens du village.
Vous parliez de ces conflits, de ces guerres des arcs et des flèches. Quelles sont les raisons de ces conflits et comment on peut accéder à la fois aux raisons de ces guerres mais aussi à l'identité de ces participants ou des groupes de participants quand on n'a pas de tradition écrite ?
C'est la tradition orale qui nous donne les informations.
Encore aujourd'hui.
Et il y a deux variantes finalement. Et d'après les récits qui ont été rapportés, notamment au moment justement où commençaient à s'établir les lois pour les droits de ces populations natives qu'on appelle Angsa, il y a beaucoup d'enregistrements qui ont été faits dans les villages sur des cassettes audio. Et dans ces enregistrements, il y a souvent deux versions qui ressortent. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a une version qui est plutôt maritime et une version qui est plutôt terrestre. Et donc, celle qui est souvent évoquée pour les populations que nous on rencontre et qui prévaut à Quinnox, c'est celle d'un jeu entre deux enfants qui aurait mal fini. Et l'un des enfants, en s'exerçant au tir, aurait aveuglé, ou éborgné plutôt, avant de l'aveugler, son copain. Et les parents en seraient venus aux mains, et ensuite les villages, et ensuite toute la région.
Ça aurait fait un effet boule de neige et donc Exactement. Ça aurait donné lieu à ces conflits particulièrement violents. Alors là, on se concentre, Claire Oumar, sur ce site de Nunalek, mais on imagine que dans la région, il y a encore plein d'autres sites qui restent à explorer. Quels autres sites ont été explorés par des archéologues? Comment on peut introduire finalement Nunalek dans cette carte de cette région de l'Alaska, dans une ramification? Est-ce qu'il y a d'autres sites qui sont directement liés à celui-ci?
Il en existe très probablement, mais qui n'ont pas été fouillés. Et donc là, l'objectif aussi du prochain projet, c'est d'essayer d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et on est rentré en contact avec un nouveau village qui est tout à fait intéressé par notre expertise et qui aimerait qu'on arrive à faire un nouveau projet Nunalek, mais dans leur village à eux. Et maintenant, il nous reste à trouver des subventions pour arriver à financer tout
ça. Ce site, c'est le site de Chivac, c'est ça?
Non, le pas village, du tout. C'est le village de Chivac. D'accord. Et c'est le site de Kavinak.
Parce que là, on évoquait cette rapidité, cette archéologie de l'urgence, finalement, le réchauffement climatique, ça menace actuellement les populations qui habitent sur ces côtes de l'Alaska. Il y a des villages entiers qui vont devoir être déplacés après les guerres, finalement, qu'on a abordées. La colonisation, bien sûr, il y a une menace d'un autre genre qui plane aujourd'hui sur cette culture Yupik. Comment elle se manifeste, cette menace climatique sur ces vestiges? Quel effet direct elle va avoir?
Sur les vestiges en eux-mêmes, c'est l'érosion qui est la plus prégnante. L'érosion et puis la fonte du pergélisol, donc ce sol qui est gelé en permanence, qui fait que les matières les plus fragiles vont disparaître d'elles-mêmes. Et ensuite, l'érosion qui a cet effet mécanique immédiat. À Nunalek, on a perdu 5 à 10 mètres de côte en même pas 10 ans, si je me souviens bien. À Kavinak, d'après les plans qui ont été faits en 2001, il y a déjà 3 maisons qui auraient disparu. Donc l'urgence est là.
Cette urgence, elle est là et elle implique du coup un investissement des populations, on le disait tout à l'heure, locales, dans ces travaux de préservation, de défense. C'est quelque chose de capital, on l'a compris dans notre discussion, Claire Oumar. Quel rôle jouent justement ces populations et comment on leur rend ce passé-là qui remonte au sol, remonte à la surface, pardon.
Je dirais que c'est un peu une exception quand même, ce projet Nunalek, et c'est vraiment l'initiative de Rick d'avoir voulu laisser le patrimoine culturel de Nunalek accessible aux habitants de Quinnahoc. Et c'est vrai que les villages alentours y sont sensibles, et maintenant, ça serait difficile de faire autrement, et ça ne serait pas souhaitable de faire autrement. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est loin de tout, c'est des infrastructures qui sont pas forcément faciles à mettre en œuvre, même pour les villageois. Par exemple, à Quinnahoc, c'est le gouvernement qui vient construire les maisons, il en construit 2 par an. Il y a une vraie pression sur la population d'un point de vue démographique. Mais la vitesse est celle du gouvernement et pas celle du village, et les subventions sont celles du gouvernement et de moins en moins importantes.
Là, on parle d'un gouvernement en Alaska. Voilà, l'Alaska, ça fait partie des États-Unis. On imagine que dans les États-Unis de Trump, ce genre de projet d'archéologie qui parle finalement des populations autochtones n'est pas forcément simple à mener, ou en tout cas n'est pas forcément une priorité.
En tout cas, on avait peur de ne pas pouvoir accéder au tout simplement au site cet été. On a pu voyager sans difficulté, mais c'est vrai que maintenant, il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser, il y a des façons d'aller chercher les sous qui sont différentes. Après, nous, en tant qu'Européens, ce qui nous sauve, c'est qu'on n'est pas dépendant de ces financements américains. Mais ça nous a impacté de toute façon aussi pour Quinnahoc, parce que les chambres qu'on occupait sont maintenant occupées par des pêcheurs sportifs. Donc on n'a plus de moyens de logement à Quinnahoc, et c'est pour ça qu'on a voulu se déporter sur un nouveau village.
Est-ce que vous avez du coup déjà un calendrier de fouilles à venir, des projets qui sont construits? Bien sûr, vous le disiez, en attente de financement, mais quelles sont les perspectives de fouilles que vous avez en tête?
Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est faire la même chose qu'à Nunalek, à Chivac, parce que la population est demandeuse, parce que les sites sont importants et qu'on est a priori à l'épicentre de ces guerres de l'arc et de la flèche, et que justement, ce serait un bon moyen de pouvoir trouver des points de comparaison avec Nunaalek, et de pouvoir justement aussi avoir une idée de la façon dont les hommes et les objets circulaient entre les différents villages, de voir quel jeu d'alliance il pouvait y avoir, et comment ces régions-là finalement étaient parcourues par ces populations, à la fois en saison hivernale et en saison estivale.
Sur ces 100 000 objets là qu'on évoquait tout à l'heure, donc cette collection incroyable de vestiges matériels de la culture Yupik, quelle valorisation est envisagée, puisqu'on on l'a compris, c'est une valorisation locale. Comment sont-ils présentés à la population?
Alors, ce qu'on essaie nous toujours de faire, c'est des restitutions à la population à la fin des fouilles, et de les impliquer pendant la fouille et après la fouille, à différents niveaux, de faire des ateliers aussi avec eux. Ça, c'est ce qu'a beaucoup développé l'université d'Aberdeen et d'autres collègues. Et puis aussi de leur rendre notre savoir à partir des analyses qu'on fait. De leur permettre finalement d'avoir aussi une image de cette vie quotidienne qui, a priori, ne transparaît pas dans la tradition orale. Et ça, c'est le gros atout de l'archéologie par rapport à cette tradition orale qui, finalement, ne garde que les événements les plus marquants.
Est-ce que ça crée chez eux un intérêt, une surprise d'accéder justement à cette vie quotidienne qui n'est pas, qui est exclue de la tradition orale, puisqu'on pourrait se dire, bah, finalement, c'est quelque chose d'assez anecdotique? Ou bien est-ce que y a tout d'un coup quelque chose de nouveau qui se crée?
Il y a différents types de réactions. Il y en a qui ne sont pas contents qu'on aille réveiller les morts, finalement. Il y en a qui sont contents qu'on mette en avant leur patrimoine, à la fois au niveau du village, mais aussi à l'extérieur du village. Et c'est une des raisons pour lesquelles Charlotte Fauve est venue, a mis en lumière ces populations et l'origine du livre qu'on a publié. Et puis, ce qu'on aimerait, nous, maintenant, c'est développer aussi des expositions itinérantes, à la fois en Alaska, pour leur montrer aussi, finalement, ces peuples blancs, qu'il y a des peuples natifs qui avaient une vraie technologie, un vrai mode de vie et une identité propre qui est vouée à disparaître si on ne fait rien. Et puis nous, du côté européen aussi, les mettre en lumière parce qu'elles sont quasiment inconnues.
Mmh. Et on parlait tout à l'heure de ces pratiques chamaniques qui ont disparu aussi avec l'interdiction de ces pratiques-là par les missionnaires occidentaux notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui sont à nouveau ressuscitées par ce genre de découverte, ou bien est-ce que ce sont des traditions qui ne se sont jamais totalement perdues?
On va dire qu'elles sont probablement restées en partie clandestines puisqu'elles arrivent de nouveau à réémerger. Mais c'est plutôt l'aspect danse et performance qui va ressortir plutôt que la cosmologie. Mmh. Il y a des éléments qui vont rester d'un point de vue cosmologique. Et c'est sûr que, par exemple, le site de Nunaalek, pour eux, reste habité et pas seulement habité par des humains. Il est habité par toutes sortes d'autres âmes. Ça, c'est quelque chose qui est encore prégnant dans leur société. Mais le côté chamanique, je suis pas sûre qu'il reviendra vraiment, parce que, justement, on a tellement fait une chasse aux sorcières de ces chamans pour venir évangéliser ces coins-là que cette partie-là, elle va probablement pas complètement revenir.
Merci beaucoup en tout cas à vous, Claire Oumard, d'être venue nous parler de vos recherches en terre Yupik. Je rappelle le titre de votre livre, Alaska, l'usure du monde. C'est paru aux éditions du Seuil et c'est co-signé avec Charlotte Fauve. Merci encore.
Merci beaucoup.
Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.